OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans le livre de l'Apocalypse, si vous vous levez. On va lire l'Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 8. Apocalypse, chapitre 1, versets 4 à 8. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, je vais vous asseoir. J'ai intitulé le sermon d'aujourd'hui « Trois révélations de Jean concernant le Christ aux églises ». Parce que si on lit le texte attentivement, c'est ça qui se passe. Jean est en train de donner des révélations sur la personne de Christ aux sept églises d'Asie, qui représentent l'ensemble de toutes les églises du monde, dans le fond. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, trois révélations. La première révélation, c'est que Christ amène une bénédiction, une énorme bénédiction, une infinie bénédiction, qui est dans le chapitre, qui est dans le verset 4 et la première partie du 5. Et la deuxième proposition qu'on va regarder, c'est que Christ amène une louange. Et la troisième, que Christ amène une assurance. Versets 7 et 8, on a vraiment... l'accent est mis sur l'assurance que Christ nous amène. Donc, il y a trois révélations que Jean fait aux églises, et ces trois révélations-là sont une bénédiction, une louange, une assurance. C'est vraiment les trois idées qui sont dans le texte de façon très claire. On avait vu au cours des leçons précédentes jusqu'à quel point les chrétiens du premier siècle étaient dans des circonstances très difficiles. Ils souffraient énormément. Et il y avait plusieurs choses qui les travaillaient, comme on peut dire, qui les faisaient souffrir. C'était, il y avait des tentations de compromis. Un peu comme nous, aujourd'hui, on est entouré de mal. Le mal croît de plus en plus, et ça devient de plus en plus difficile de faire comme tout le monde, puis personne ne va en tenir compte. Le compromis est là, il est présent. Il est omniprésent et il cherche toujours à nous emmener dans ses affaires. Il y avait aussi l'idolâtrie qui était omniprésente. On avait vu que les Romains, les empereurs romains de l'époque commençaient à se prendre pour Dieu personnellement. Et ils exigeaient que leurs citoyens des différentes villes les considèrent comme des dieux et les adorent. Et c'était très dangereux à cette époque-là de t'opposer à l'empereur. Si tu t'opposais à l'empereur, c'était extrêmement risqué. Donc, il y avait aussi des doutes que ces gens-là avaient concernant le contrôle que le Seigneur avait sur tous ces événements-là. Quand tu es chrétien, puis tu sais que ton Dieu est omnipotent, puis que tu vois des gens se faire enfermer, tu vois des gens se faire envoyer sur des îles désertes, tu vois des gens être maltraités, tu te dis, tu peux me dire pourquoi le Seigneur n'intervient pas, lui qui est tout puissant. Alors, quelque part, ces gens-là avaient des doutes concernant la manière dont Dieu contrôle les événements qui se passaient autour d'eux. Parfois, Dieu intervient, parce que quand on lit les Écritures, on voit que parfois Dieu intervient, puis parfois il n'intervient pas. Et les questions qu'on peut se poser quand ça arrive, veux-tu bien me dire pourquoi il n'intervient pas? Alors, c'est ça qui avait besoin d'être assuré. Il y avait aussi des mauvais traitements qu'il recevait de tout part, de tous côtés. Des mauvais traitements qui étaient de toutes sortes de nature. Ça pouvait être physique. On sait que certains avaient été pris, attachés après des poteaux, enduits d'huile. On a foutu le feu après. Ils servaient de torches vivantes. D'autres avaient été envoyés dans les sphères dévorées par les bêtes sauvages, les lions, affamés. Imaginez-vous, vous mettez des chrétiens au milieu, là, puis vous lâchez des lions affamés. Alors, toutes ces choses-là, les chrétiens étaient témoins de ça. Ils entendaient parler que c'est arrivé à un tel, telle affaire. Imaginez-vous si on serait dans leur peau. Comment on filerait, nous? On vivrait les mêmes émotions qu'eux ont vécues. Il y avait des mauvais traitements qui étaient à tous les niveaux, social, économique. Alors, à l'époque, pour pouvoir pratiquer un métier, il fallait que tu aies, un peu comme aujourd'hui, il fallait que tu sois membre d'un syndicat ou il fallait que tu sois reconnu. Il y avait des organisations. Et quand les personnes commençaient à témoigner leur foi en Christ, on les excluait. C'était un peu comme aujourd'hui, si on dirait, tu peux plus avoir ta job parce que tu crois en Jésus-Christ. Est-ce que tu continuerais à croire en Jésus-Christ pareil? C'est exactement l'équivalent de ça. Ils perdaient leur job parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Puis ils ne pouvaient pas appartenir à certaines associations de travailleurs. Et il y avait aussi des pressions qui s'exerçaient de tout bord, de tout côté, pour qu'ils cèdent à la tentation d'adorer l'empereur. Parce qu'ils savaient très bien que les Écritures enseignaient qu'on adore une personne, juste Dieu. Ni les anges, ni rien, encore moins l'empereur qui s'y prenait pour Dieu, qui était le pire pécheur de la terre. Alors, ces croyants avaient quatre besoins. On avait vu dans les leçons précédentes que le Seigneur connaît les besoins des siens qui sont sur la terre. Et l'Apocalypse, ceux qui l'ont étudié plus en profondeur, reconnaissent qu'il y avait quatre besoins qui étaient couverts par l'Apocalypse. Les besoins d'être avertis. Donc, quelqu'un qui voit les choses se passer autour de lui, qui voit certains chrétiens peut-être s'aventurer à adorer l'empereur, on a-tu besoin d'être averti? Donc, il y avait un besoin d'avertissement. Et le livre de l'Apocalypse a beaucoup d'avertissements. Il y avait un autre besoin, il y avait besoin d'être préparé et d'être fortifié pour les choses qui s'en venaient. Parce que eux, ils étaient témoins de certaines choses qui se passaient autour d'eux, mais l'apôtre Jean savait très bien que c'était pour durer. Pas juste une semaine, deux semaines, c'était pour durer. Alors, si tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent autour de toi, tu as besoin d'être rassuré, tu as besoin d'être fortifié. Disons que je vous dirais qu'à partir de la semaine prochaine, là, si vous venez à l'église, vous allez vous faire arrêter, vous allez perdre votre job, viendriez-vous pareil la semaine prochaine? C'était ça qui se passait à cette époque-là. Donc, il avait besoin d'être préparé, il avait besoin d'être fortifié, parce que l'apôtre Jean savait très bien que les persécutions n'étaient pas terminées. Puis en quoi ça consistait, les persécutions de cette époque-là? La prison. Ceux qui ont déjà vu des films sur les prisons de cette époque-là, il y en a qui ont vu le film sur Paul, il y a quelqu'un qui a fait circuler ça maintenant dans l'église. Je me souviens qu'à l'époque, les prisons, c'était pas les prisons modernes aujourd'hui qui ont l'air plus des motels que d'autres choses. Dans ce temps-là, les prisons, c'était extrêmement dur. Alors, les prisons, tu risquais de faire de la prison à cause de ta foi. Un autre risque que tu avais, c'était le bannissement. Un bannissement, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une personne. Ah, tu crois en Christ? Ben nous autres, on va te pogner et on va t'emmener sur une île déserte. Un peu comme Jean à Patmos. Jean a été banni. Le prix, on l'a envoyé sur une île déserte. Comment il faisait pour se débrouiller? Je sais pas, j'ai aucune idée. Là. Là-dessus, c'est quelque chose que mon ignorance est grande. Mais à quelque part, il fallait qu'il trouve les moyens de survivre. Tu avais le bannissement, tu avais la faim puis la soif. Parce que, bien entendu, quand quelqu'un te fait perdre ta job, il te fait perdre le moyen par lequel tu as un revenu, mais il vient un temps là, que tu n'as plus rien à manger. Puis tu fais dur, comme on dit. Il y avait besoin aussi, à l'époque, avait déjà commencé à faire des décapitations. Quand vous allez voir un petit peu plus loin dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, mais dans l'Apocalypse, on parle que les chrétiens décapités. Mm-hmm. Décapités, ça veut dire la tête coupée. Alors, il y avait déjà à l'époque, il y avait des gens qui se faisaient couper la tête à cause de leur foi. Après ça, il y avait la mort par les bêtes sauvages. manger par des lions, ben non, par des choses semblables, ou servir de chandelles vivantes pour les amusements des empereurs. Et les foules romaines qui assistaient à ça se réjouissaient de ça. On voit la dépravité du cœur humain là-dedans. C'est pas croyable, hein? On pense que des gens sont attachés après un poteau, puis ils servent de chandelles, puis que des foules autour de ça regardent ça, puis qu'ils trouvent un plaisir à ça. Si on n'a pas d'idée, c'est quoi la corruption du cœur humain, on a juste à penser à ça. Donc, il y avait besoin aussi d'être encouragé, parce que les autorités romaines, partout, surveillaient ce qui se passait chez les chrétiens. Et il n'y avait pas juste les autorités romaines, il y avait les juifs qui étaient dans presque toutes... Ben, ils n'étaient pas dans presque toutes les villes, ils étaient dans toutes les villes, et eux, ils haïssaient les chrétiens, et ils les dénonçaient. Je crois bien que la foi devait se vivre un petit peu secrètement, mais les juifs se prenaient un plaisir de les dénoncer. « Ah, il ne veut pas adorer le... » Parce que les juifs, eux autres, ils se rangeaient du côté de l'empereur. Il y avait des magistrats qui surveillaient, il y avait des juifs qui dénonçaient. Et ils avaient un quatrième besoin, c'était celui d'être consolés. Si vous vivez dans une atmosphère comme ça, puis vous entendez parler que votre frère, votre soeur, votre cousin, votre oncle, votre père, votre mère a subi un traitement pareil, bien sûr que vous êtes littéralement enterré de douleur. Et vous avez, quand on est enterré de douleur, qu'est-ce qu'on a besoin?
Consoler.
Un peu comme un enfant qui se fait mal, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa mère, puis il se tient après sa mère, puis il a besoin d'être consolé. Puis d'habitude, la mère y arrive, là. Quand c'est pas trop grave, d'habitude, la mère y arrive. Mais on a besoin, quand on vit des circonstances similaires, on a besoin, tout simplement, d'être consolé. Donc, quatre besoins. Averti, préparé et fortifié pour les persécutions à venir. Encouragé devant la crainte des Romains et les Juifs qui les dénonçaient. Et aussi, être consolé. Alors, l'apôtre Jean connaît très bien tous leurs besoins aux chrétiens du 1er siècle. Et le Seigneur se sert de Jean pour rappeler aux siens, aux chrétiens de l'époque du 1er siècle, mais aussi à nous. L'Apocalypse, si on veut la comprendre et l'interpréter intelligemment, il faut comprendre que Jean écrivait à des gens qui vivaient une situation particulière au 1er siècle. Mais est-ce que ça veut dire que l'Apocalypse s'adresse juste à ces gens-là? Surtout à ces gens-là, mais aussi les leçons que Dieu permettait qu'ils soient transmises par Jean à tous les chrétiens de l'époque et à tous les chrétiens de toutes les époques. Parce que ceux qui ont vécu des persécutions, là, ça ne s'est pas fait juste au 1er siècle, des persécutions. Il y en a eu à tous les siècles. Quand est arrivée la réforme, il y avait un paquet de choses de violence que l'Église catholique a fait subir aux chrétiens de l'époque. Et les chrétiens avaient besoin aussi d'être, de tous les mêmes besoins qu'on vient de parler pour ceux du 1er siècle, étaient présents pour ceux de tous les siècles. Ce qu'il y a de beau avec les Écritures, c'est que le Seigneur, à partir de 22 chapitres, est capable de remplir tous ces besoins-là d'une façon parfaite. Et quelque part, ça prend juste Dieu pour être capable de faire une affaire pareille. Parce que nous, comment on a essayé d'écrire une lettre avec 22 chapitres? Pour consoler tout le monde, là, je pense pas qu'on aurait eu beaucoup de succès. Ça prend les mots divins, ça prend le rappel de certaines vérités divines. Comme par exemple, on va voir que dans le texte d'aujourd'hui, il y a des vérités qui sont rappelées sur le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui qui est, qui était, qui sera. On parle de Dieu, Dieu trinitaire. Et il veut leur rappeler que le Seigneur, malgré les apparences, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des apparences qui ont l'air que le Seigneur n'est pas au contrôle. Il veut leur rappeler que même si ça ne paraît pas, le Seigneur est parfaitement au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre, tout simplement parce que c'est lui qui l'a décrété, et les choses qui arrivent, on ne les comprend pas tout le temps. Et c'est ça qu'on a besoin de se faire rappeler des fois. Pas nécessairement que le Seigneur va te faire sortir de la situation dans laquelle tu es et que tu souffres. De faire comprendre des principes. Le Seigneur est au contrôle, il permet ça, il n'explique pas nécessairement pourquoi. Mais toutes ces raisons, parce que dans le reste des Écritures, on le dit, c'est rempli de sagesse. Et ça a l'air dur de dire à quelqu'un, le Seigneur permet ça par amour. De dire à quelqu'un, le Seigneur fait ça par miséricorde, de dire à quelqu'un, le Seigneur est au contrôle des circonstances qui se passent. Et quelqu'un qui vit ça, là, je pense que c'est pas, peut-être pas le moment d'y dire ça. Mais malgré ça, n'enlève pas la vérité quand même de la chose. Donc, ils ont besoin de se faire rappeler que le Dieu trinitaire est au contrôle, malgré les apparences, et qu'ils sont bénis à travers ça. Parce que dans Philippiens, je pense qu'il y a un verset qui dit que c'est une grâce de souffrir pour lui. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Mais si quelqu'un me dit, c'est une grâce que tu souffres, j'ai de la misère à l'avaler, celle-là. Je ne sais pas si vous autres, là. Ils ont besoin aussi de se faire rappeler que la personne du Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, ils l'ont crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité, il remonte au ciel, mais quand il a été rendu au ciel, ça dit que le Père lui a donné le contrôle absolu. Donc, il est, qu'on avait parlé du mot « pantocrator », c'est le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, dans sa divinité, dans son humanité, parce qu'il y a encore son humanité au ciel, qui est le grand dirigeant de l'ensemble de tout ce qui se passe sur la terre, et que rien ne lui échappe. Pensez-vous que ces gens-là ont besoin de se faire dire ça? Mm-hmm. Un grand besoin. Alors, il va leur rappeler que Jésus-Christ est le pentocrator ou le souverain universel, et il va se rappeler qu'il guide les affaires du monde, autant les affaires personnelles que les affaires des églises locales, que l'ensemble de tout ce qui se passe au point de vue politique à tous les niveaux. Hey, quand tu te fais rappeler ça, tu comprends que Dieu est au contrôle, ça rassure. Ça n'enlève pas ta souffrance, mais ça rassure drôlement. Alors, il veut leur rappeler trois choses. Il veut leur rappeler trois choses concernant Jésus-Christ. Il veut leur rappeler qu'il est le fidèle témoin. On va voir un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de Jésus comme étant le fidèle témoin? Il parle d'une autre chose le concernant. Il dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Donc, il est le premier, mais ça veut-tu dire qu'il va en avoir d'autres après? Entre les morts. Nous aussi, on est à mort. Et il veut leur rappeler aussi qu'il est le prince des rois de la terre. Il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit « Roi des rois, seigneur des seigneurs ». Qu'est-ce que ça veut dire? Être le roi des rois. Les rois qui avaient tout à l'époque, il y avait des rois un petit peu partout. La Bible est en train de rappeler aux chrétiens que Jésus est le prince. Donc le prince, c'est comme si lui qui est le roi de l'ensemble des rois. Et comme ça dit souvent dans les Écritures, il est capable de contrôler l'esprit de tous ces gens-là comme il veut. C'est un besoin qui est très intéressant à se faire souvenir. Donc, il les appelle à louer leur Seigneur et leur Sauveur pour plusieurs choses qu'ils ont fait, que lui, le Seigneur, a fait pour eux. Pardonner leurs péchés et avoir fait de nous. Ça dépend des bonnes et des versions. Il y a des versions qui vont dire « royaume a fait de nous un royaume ». Il y a des versions, moi, la version que j'utilise dans la Osterval, « il a fait de nous des rois et des sacrificateurs ». Pense-y, là. T'es un roi, comme chrétien. T'es un roi. Pourquoi? Parce que tu es en Christ et Christ est roi. Donc, si Christ est roi puis tu es en lui, automatiquement, tu es roi toi aussi. C'est intéressant. Donc, il a pardonné les péchés et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. On va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire être roi et sacrificateur au point de vue spirituel? Puis, il nous dit la fin finale. Tout ce qui se passe sur la terre, toutes les choses qui se déroulent à l'époque, il leur dit la fin finale de ça, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Ce qui est intéressant, je vais remettre porter attention à ça, avant de lire les commentaires que j'utilise. Il dit, si tu remarques la phrase qui est dit, être, c'est entre deux amen. Dans le verset 6, ça se termine par un amen. Mm-hmm. Et dans le verset pas trop 7, ça finit par un amen. Donc la phrase est entre deux amen. C'est comme le Seigneur veut montrer que la phrase est vraiment, c'est comme un saut. Le saut du double amen. Très intéressant comme idée. Et il veut leur rappeler aussi qu'ils ont la solide assurance de la victoire. Quand tu vis des affaires de même, tu as l'air de quoi? Tu penses que tu es un loser? Tu dis, ça y est, on va mourir pas dans l'enfer, mais on va mourir, on va se faire maltraiter, on va aller en prison, on va être banni, etc., etc. Qu'est-ce que Jean veut leur rappeler? N'oubliez pas que même si vous passez par le martyr, qui est un honneur, vous êtes victorieux. Parce que quand Christ est venu, il a eu la victoire et vous êtes plus que vainqueur. Très intéressant. Il veut leur rappeler plusieurs choses. Qu'ils sont victorieux et qu'ils se doivent d'attendre patiemment la deuxième venue de Jésus-Christ. Ça ressemble à nous autres aussi. Eux, ils attendaient la deuxième venue parce que les gens du premier siècle avaient la conviction que c'était pour arriver d'une heure à l'autre, d'une année à l'autre. Comme nous aujourd'hui, personne ne sait quand est-ce que ça va terminer. Alors, la deuxième venue, et cette deuxième venue-là, selon les Écritures, elle a plusieurs caractéristiques. Quelles sont-elles, ces caractéristiques-là? Elle va être soudaine. Soudaine, la deuxième venue, ça veut dire soudain, ça veut dire tu t'en attends pas. Ça pourrait être aujourd'hui. Soudain, ça veut dire que tu t'en attends. On pense que ça n'arrivera pas nécessairement aujourd'hui, ça peut être aujourd'hui. Donc, une des caractéristiques de la deuxième venue de Jésus, soudain, personnel. Il y en a qui ont commencé, ça se produit encore, là. Ça s'est produit dans les années 88, il y en avait un qui a dit que Jésus revenait, puis il avait mis des dates, 12 décembre, toutes sortes d'affaires de même. Personnel, ça veut dire que quand le Seigneur a sorti, puis a sorti de ce monde, son ascension, tout le monde l'a vu, c'est une personne qui a monté. Puis quand ils vont revenir, ça va être une personne. Puis il n'y aura pas de confusion. En tout cas, on ne rentrera pas dans les détails de la deuxième venue, là, parce que c'est pas ça qui est le sujet ce matin. Là. Mais je vais juste donner les caractéristiques. Soudaine, personnelle, spectaculaire. Quand on dit « Tout œil le verra », que tu sois en Chine, aux Indes, en Amérique du Sud, à Mégantic, à Sainte-Cécile ou à Woburn, tout le monde va le voir et il n'y aura pas personne qui ne verra pas. Ça va être clair pour tout le monde, ça va être spectaculaire. Et aussi, ça va être visible. Tout le monde va le voir en même temps. Tout œil le verra. On va s'élever, on va regarder au ciel, on va voir. Celui qui est en Chine va voir exactement la même chose que moi. Et, autre caractéristique, corporelle. Donc, ça va être le Christ avec son corps glorifié. Puis, les Écritures nous disent qu'il va revenir avec ses saints. On ne rentre pas dans les détails de ça ce matin, c'est tout un gros sujet, là. Mais il reste que toutes ces choses-là vont être présentes. Donc, on va regarder le premier point, Christ, une bénédiction. Ça dit dans les versets 4 et 5a, la première partie du verset 5, Jean, aux sept églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera et de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. Pourquoi on arrête là? Parce qu'on est en train de parler de la bénédiction trinitaire, du Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et quand on regarde une bénédiction, c'est vraiment pour l'Église, parce qu'ils disent aux sept églises qui sont en Asie. Une des premières choses à remarquer ici, c'est l'emploi du chiffre 7 à plusieurs reprises. Le chiffre 7, c'est un chiffre qui indique la plénitude, c'est un chiffre qui indique la perfection. Il est en train de parler des sept églises, bien entendu, on peut nommer les vrais noms, les vraies villes qui existaient à l'époque, mais je pense que la bénédiction qu'il est en train de donner ici, ça s'adresse à l'ensemble de toutes les églises locales qu'il y a eu, qu'il y avait à cette époque-là, et que lui voit toutes celles qu'il y aura dans le temps, dans l'espace, dans différents pays. Et il nous dit plusieurs choses qu'il veut. Donc, il dit « Jean, aux sept églises qui sont en Asie ». Bien entendu, je pense qu'il s'adresse aussi à toutes les églises du monde. Donc, on a vraiment l'idée de la complétude, de la perfection, de la plénitude. Je pense que la bénédiction s'adresse à l'Église universelle. Et c'est à remarquer qu'est-ce qu'il donne. Il dit, qu'est-ce qu'il demande que ces gens-là reçoivent? Il y a deux mots qui sont utilisés. Parce que ça dit, la grâce et la paix vous soient données. Et là, on a de la part d'eux, de la part d'eux et de la part d'eux. Puis de la part du Père, de la part du Fils, de la part du Saint-Esprit. Il demande deux choses pour ces gens-là. La grâce. Alors, on va y aller avec la grâce. Il y a deux sortes de grâce. Il y a la grâce qu'on reçoit lors de notre conversion, la grâce initiale. Quand Dieu, par son Saint-Esprit, nous ouvre l'intelligence à la compréhension de notre perdition, puis à la compréhension de qui est Christ et ce qu'il a fait pour nous. Ça, c'est la grâce initiale. Mais après votre salut, moi, ça fait 40 ans, pensez-vous que j'ai eu d'autres grâces que la grâce initiale? Il n'arrête pas de m'en donner tous les jours. Alors, eux, ce qu'ils avaient besoin, c'était la grâce initiale, ils l'avaient toutes déjà. Ils ne leur demandaient pas la grâce initiale, c'était tous des chrétiens. Donc, ils leur demandaient des grâces. Les grâces que Dieu accorde après le salut d'une personne pour le protéger, pour le faire grandir, pour le nourrir, pour quand il est blessé, le guérir. C'est ces grâces-là qu'il leur demande à ces gens-là. Ils ont besoin de ça. Ils sont en misère, ils sont en souffrance jusqu'aux oreilles, comme on dit. Alors le Seigneur, il passe par Jean pour leur dire que ça, là, ces grâces-là là, que vous avez drôlement besoin, recevez-les, ça dit qu'il vous soit donné. C'est beau une grâce, parce que c'est donné. C'est pas achetez-en si vous avez de l'argent. T'as tous des pauvres à cette époque-là. Il y en avait gros qui étaient pauvres. La grâce vous soit donnée. Très intéressant. Alors, la phrase suivante vient du livre, je l'ai fait traduire par Google, mais je vais vous la dire, il dit. Comme nous le savons, la grâce a diverses connotations dans les Écritures. Cela peut faire référence à une vertu de Dieu. Dieu est gracieux. Autrement dit, ce qu'il veut être en train de montrer, c'est que quand on étudie le texte, le mot grâce peut avoir quatre significations. Lui, il veut nous montrer laquelle des quatre significations il est en train de parler dans le texte ici. Donc, ça peut vouloir dire, quand on dit Dieu est gracieux, on parle de grâce, la grâce. Deuxièmement, ou cela peut signifier une attitude que Dieu adopte envers la créature, une attitude de ferveur, de faveur, ou plus spécifiquement, cela peut dénoter la même attitude de faveur envers le pécheur coupable, de sorte que lui, c'est une faveur d'avoir été pardonné. Cette dernière attitude est basée sur la justice de Christ atteinte par sa parfaite obéissance jusqu'à la mort de la croix. Mais le mot « grâce » est aussi souvent une puissance, une opération de l'Esprit du Christ parmi les élus, grâce à laquelle ils deviennent participants de tous les avantages du salut, et des fruits de son action ou des bénédictions du salut. C'est dans ce dernier sens, ici c'est l'homme que j'utilise, là, qui est M. Oxema, moi je le trouve excellent, et c'est dans ce dernier sens que le mot est utilisé dans ce passage, afin que nous puissions paraphraser le sens comme suit. Autrement dit, il dit, voici ce que je pourrais dire si je le dirais en d'autres mots. Il dit, que Dieu, par Christ, par le moyen de l'Esprit, agisse avec sa grâce dans votre cœur, afin que les dons de la grâce, les bienfaits du salut, deviennent les vôtres. Il est en train de dire, vous avez eu la grâce initiale du salut, mais aujourd'hui, vous avez besoin d'une multitude de grâces qui vous sont données de la part du Père, par l'intermédiaire du Saint-Esprit et basées sur l'œuvre de Jésus-Christ. Dans le fond, c'est à peu près ça qu'il est en train de leur dire. Alors, c'est très intéressant, cette idée de grâce-là, qui sont les grâces que Dieu accorde après avoir reçu la grâce du salut initial. Deuxième chose qu'il leur demande, il dit la grâce. Après ça, il leur dit que la grâce et la paix, les deux. La paix, elle vient quand? Dans notre salut. Elle vient-tu avant la grâce ou après? Après, remarquez que les mots sont dans le bon ordre. La grâce, la paix suit la grâce. Romains, chapitre 5, verset 1. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On a la paix avec Dieu quand? Quand on sait qu'on est justifié par la foi, par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si on va voir, ça c'est pour les croyants, c'est pour nous. On est justifié parce qu'on l'a devant. Mais quand on regarde pour les incroyants dans Ésaïe, chapitre 57, verset 21, regardez bien ce que ça dit. C'est intéressant de voir que pour nous, après avoir reçu la grâce, on a la paix. Mais regardez ce que ça dit pour les incroyants. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne se peut calmer, dont les eaux rejettent de la vase et du limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Quand, moi, souvent, j'ai déjà entendu parler des gens qui parlent de, disons, du New Age, ou bien non, qui trouvent la paix dans une science, là, je sais pas, mais fait du yoga, ou n'importe quoi, là. Dites-vous une chose, c'est faux. Parce que la Bible dit qu'il n'y a paix point de paix pour le méchant, dit Dieu. C'est Dieu qui le dit. Comment t'essaieras de me faire coller que tu as obtenu la paix d'une autre façon? C'est une fausse paix. Alors, les chrétiens du premier siècle sont dans des tribulations, dans un monde qui est complètement anti-chrétien, un monde anti-Dieu, un monde anti-Christ, un monde cruel. Te faire manger par les lions, là, puis te faire servir de chandelle, si c'est pas cruel, demande-moi que ça nous prend. Ouais. Un monde idolâtre et un monde violent. C'était vraiment violent, cette époque-là. C'est comme ça l'est encore aujourd'hui. Et un monde qui voudrait les forcer à les imiter. Un peu comme aujourd'hui. Le monde, là, si tu les écoutes parler, il voudrait qu'on soit comme eux autres. C'est un monde qui est plein de malice, plein d'envie, plein de guerre, plein de sang, plein de terreur, plein de destruction. N'est-ce pas ce qu'on vit autour de nous autres à longueur d'année? Et il nous ramène une... Moi, ce que je trouve, ce que j'aime d'Oxema, c'est qu'il prend les mots, puis il est défini. La grâce, on vient de voir, OK. Quand on l'aura lu la première fois, on aura pensé que le mot grâce veut dire quoi? Que la grâce vous soit donnée, il l'avait déjà. Alors, il faut que tu réfléchisses quelle sorte de grâce il est en train de parler. La même chose pour la paix. Il dit, selon lui, la grâce est composée de quatre choses. La première, c'est la tranquillité du cœur et d'esprit. Quand on sait que nos péchés sont pardonnés, et on sait que Dieu, Jésus, sur la croix, a accepté de subir la punition de mes péchés, moi, ça m'amène la paix parce que je sais que si je comparais devant Dieu, Dieu ne me dira pas, « Ah, tu t'es fait pas mal, toi, mon ami. » Oh, ça va te coûter cher, prépare-toi. C'est pas ça du tout. On le sait, j'ai la paix parce que je sais que mes péchés sont payés, ils ont tout payé, sans exception, du premier que j'ai fait, en incluant ma nature pécheresse que j'ai héritée, avec tous les péchés actuels qu'on appelle ceux qu'on a commis, ils ont tout payé. Hey, c'est drôle de penser à ça. Combien de péchés qu'il me reste à faire avant que je meure? Peut-être qu'il m'en reste beaucoup, malheureusement. Parce que j'aimerais qu'il en ait de moins en moins, c'est sûr. Là. Mais ils ont tout payé à la croix. Tout. Fait que ça me donne la paix du cœur. Hein? Je suis prêt. Comparé devant Dieu, je suis prêt. Alors, c'est composé de la tranquillité du cœur et d'esprit. Et aussi le fait qu'on a la paix avec Dieu. La Bible nous apprend qu'avant d'être sauvé, avant d'avoir reçu la grâce initiale, on n'est pas en paix avec Dieu. On est en inimitié. On est son ennemi. Même si très peu d'hommes osent avouer qu'ils sont des ennemis de Dieu, c'est un fait dans la réalité. La quatrième chose, c'est que nous avons la paix les uns avec les autres. La paix les uns avec les autres, c'est... On a encore des petits conflits dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas eu, vous êtes bien chanceux. Moi, j'en ai eu plus que ma part. Je suis certain que vous autres aussi. On serait censé de s'aimer au point de ne plus jamais se blesser. De ne plus jamais. Mais on sait que ça nous amène la paix les uns avec les autres, en ce sens que quelqu'un qui me fait de quoi, aujourd'hui, je suis capable de lui pardonner. Alors que je vois des gens autour de moi que dès qu'ils se font faire la moindre petite chose, ils vont en vouloir pour 25 ans. assez pour pas te parler. Comment vous avez vu ça dans les familles, des fois? Les familles, il y en a un qui a fait une bêtise, il a dit une parole de travers à l'autre, et ils se parlent plus pendant le reste de leur jour, ils sont pas capables de se pardonner. La différence avec nous, c'est pas que les gens nous blessent pas encore, ils nous blessent encore, ils nous font mal encore. Mais la différence, c'est que nous, on sait que le Seigneur a payé pour le péché qu'on a fait. Comme le Seigneur a payé pour le péché qu'on fait quand on offense les autres, nous autres aussi. C'est très intéressant. Et autre chose, quatrième chose qui fait partie de la paix, c'est qu'on commence à comprendre que toutes les choses qui nous arrivent dans la vie, ça, ça prend du temps. Me dire en affaire, je l'ai dit c'est aussi souvent que vous. Très souvent, je ne vais pas finir de le dire, je vais le dire encore. Romains 8, 28. Or, nous savons que toutes choses concourent, dans le grec, c'est travail ensemble. Toutes les choses qui nous arrivent dans la vie. On se blesse, quelqu'un nous blesse, on tombe malade, on s'en va à l'hôpital. Toutes ces choses-là, Dieu permet qu'elles arrivent pour notre plus grand bien. Comment ça prend de temps là, qu'on apprenne cette leçon-là? Ça prend un temps fou. Ça fait 40 ans, moi, je pense que je ne l'ai pas encore appris pleinement. On l'a appris en partie, là, mais pas pleinement. Parce que si on l'a appris pleinement, on se plaindrait jamais, 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 jamais. Parce que la Bible nous dit que tout ce que Dieu permet qui arrive dans nos vies, c'est pour notre plus grand bien. Même si ça fait mal, on se devrait d'avoir suffisamment de foi pour savoir que si Dieu a permis cet événement-là dans ma vie, c'est pour mon plus grand bien, même si ça fait tellement bobo. Parce que des fois, ça fait bobo, pas à peu près. Hein? Donc, les quatre choses. On vient d'énommer les quatre choses que la paix amène. Et on a vraiment la bénédiction du Dieu trinitaire quand il nous dit, vous remarquerez là-dedans, il y a trois fois de la part. Je les ai soulignés, je les ai écrits sur mon texte. De la part de celui qui est, qui était et qui sera. On parle de qui? On parle de Dieu trinitaire. Après ça, et de la part des sept esprits. Voyez-vous, l'ordre, normalement, c'est Père, Fils, Saint-Esprit. Ici, c'est différent. Père, Esprit, Seigneur en troisième. Ah, on ne s'arrête pas à penser à ça. Il y a une raison pour que... Alors, de la part de celui qui est et qui était et qui sera, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, bien sûr, on fait référence au Saint-Esprit, et de la part de Jésus-Christ. Trois de la part. Donc, autrement dit, toute la personne de Dieu est inclue dans la bénédiction qu'il est en train de vouloir donner aux gens du premier siècle qui souffraient à cause des conditions qu'ils vivaient. Donc, une bénédiction du Dieu trinitaire ou trine. Donc, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui a, quand on parle qui est celui qui est présentement, qui était... On peut reculer dans l'éternité et qui sera jusque dans l'éternité future. Autrement dit, ne vous en faites pas, Dieu est au contrôle. Il a toujours été contrôle depuis le début, puis il va se rendre jusqu'à la fin. Après ça, ça dit, bénédiction de la part des sept esprits. Là, on peut se demander pourquoi. Là, on peut se poser la question, pourquoi qu'il dit sept esprits alors qu'il y a un Saint-Esprit? C'est là qu'on commence à rentrer dans le symbolisme des Écritures, dans l'Apocalypse. Le mot « sept » veut toujours dire « plénitude », veut toujours dire... Alors, on parle de la plénitude du Saint-Esprit qui va vouloir être donnée aux enfants de Dieu. Donc, le Saint-Esprit devient l'agent, le canal par lequel ces bénédictions sont versées dans le cœur des croyants. Et cela durant toute leur vie terrestre. C'est très intéressant de noter ça quand on est des croyants. Le Seigneur s'est pas occupé de nous autres juste au moment de notre conversion. Il continue de s'occuper de nous autres aujourd'hui, puis demain, puis jusqu'à temps qu'on soit avec lui. Et il termine, il dit, « Et de la part de Jésus-Christ. » Ce serait intéressant, juste avec ce petit passage-là, là, d'aller en profondeur avec ça. « Et de la part de Jésus. » Jésus veut dire quoi? Et de la part de votre Sauveur, Jésus, c'est le Sauveur, et Christ, juste le mot Jésus-Christ, là, Spurgeon a déjà fait un sermon, juste avec le mot Jésus-Christ, fait un sermon d'une heure et demie. C'est quelque chose. Christ, il y a trois personnes, trois offices dans Christ. On parle du sacrificateur, donc c'est celui qui était sur la croix, qui a pris le châtiment C'est celui qui est rendu au ciel, qui intercède pour nous, le sacrificateur. Il est aussi le roi et le prophète. Il parle de la part de Dieu. Il est le prophète oint, il est le sacrificateur oint, il est le roi oint. Et ce qu'ils avaient besoin de se faire rappeler, eux, c'est que Jésus, le Pentocrator qui vit maintenant au ciel, c'est lui qui contrôle toutes ces choses-là. On a besoin de se faire ressouligner le rôle du roi. Alors, quand on lit la deuxième partie, c'est Christ une louange, la deuxième partie du verset 5, 5b et 6, ça se lit comme suit, « Et de la part de Jésus-Christ, et là, il mentionne des choses concernant Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. » On va commencer par là. Donc, il veut qu'on loue le Seigneur pour le rôle qu'il a joué et qu'il continue de jouer dans nos vies. Donc, il parle de son rôle comme de quoi qu'il est maintenant le souverain cosmique qui s'occupe de tout la Terre entière. C'est intéressant de noter les trois fonctions qu'il veut rappeler aux chrétiens de l'époque. Fidèle témoin. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de Jésus-Christ comme étant un fidèle témoin? On va aller voir quelques versets qui vont nous aider à comprendre. Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il était le serviteur du Père. Et il n'a pas reculé devant aucune difficulté pour accomplir la volonté de son Père. Comme ça dit dans Jean 18, verset 37, là il parle avec Pilate, là, on se souvient du passage. Alors Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né pour cela. » Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quand tu rends témoignage à la vérité, quel rôle des trois fonctions, des trois offices qu'on parlait tantôt, que c'est rendre témoignage à la vérité?
Prophète.
Prophète. Il parle au nom de Dieu. Pour rendre témoignage à la vérité. Et là, voici ce qu'il dit. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, si tu es un élu, quand Dieu va parler, tu vas écouter. Et on a un autre passage, Jean, chapitre 6, verset 37 à 40. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Fidèle. C'est le Père qui voulait quelque chose. Le Fils n'a pas reculé devant aucun sacrifice. Quand il était la veille de sa crucifixion, il y avait des grumeaux. Il pensait à ce qui était arrivé, là, puis il souffrait tellement. Pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé. Et ça, c'est tellement rassurant. Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, un témoin fidèle, c'est qu'il accomplit la volonté du Père. Et on a un autre passage qui va avec le témoin fidèle, c'est Ésaïe 50, versets 5 à 7. Là, ici, dans le contexte, on parle du Messie à venir, et il dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, et je ne me suis point retiré en arrière. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages ni aux crachats. » Imaginez-vous, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu lui-même incarné dans une chair d'homme. Puis tu recules pas devant te faire cracher dans la face par des pécheurs que tu pourrais... Alors, quand on parle d'un témoin fidèle, il n'est pas fidèle à peu près. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui et on va le terminer la semaine prochaine.